France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le Live Aid 85, chanté contre la famine. À l'automne 1984, une sécheresse et une famine sévères touchent les nords de l'Éthiopie et du Soudan. Des centaines de milliers de personnes sont menacées de mort. On a tous en mémoire ces images d'enfants décharnés au regard rempli de désespoir et d'innocence. Derrière son écran, Bob Geldof, chanteur du groupe de rock Boomtown Rats, est profondément choqué. Et il ne reste pas les bras croisés devant la laideur du monde. Il décide de rassembler des stars pour enregistrer un disque de Noël et récolter de l'argent pour combattre la famine. La chanson « Do They Know It's Christmas » est un succès considérable. Une initiative vite copiée par les Américains avec « We Are The World » et les Français avec « SOS Éthiopie ». Fort de son succès, Bob Geldof a une nouvelle idée un peu folle. Réunir les plus grandes stars de la planète pour un concert simultané en Angleterre et aux États-Unis, le Live Aid 85. Retour sur cet événement qui marque l'apogée du charity business. Notre invité aujourd'hui, Ronnie Broman, l'ancien président de Médecins Sans Frontières. Affaires Sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire, Adrien Mora, rédaction chef Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca de Nantes. Réalisation, Stéphane Cohn.
Fabrice Drouel. Affaires Sensibles sur France Inter.
Octobre 1984, soirée d'automne humide et froide en Angleterre. Normal, quoi. Au chaud dans leur salon, les téléspectateurs regardent la télévision. Sur la BBC, la présentatrice lance un reportage qui annonce « En Éthiopie, 7 millions de personnes sont menacées par la famine. Des milliers sont déjà morts. La famine causée par la sécheresse est la pire dont on se souvienne. Les organisations humanitaires présentes dans ce pays sont débordées. En plus de la sécheresse, des conflits ethniques et territoriaux dans les régions d'Érythrée et du Tigré aggravent la crise. » Michael Burke, un reporter à la BBC, revient du terrain avec des images effroyables. Extrait du commentaire.
Cet endroit, selon les travailleurs humanitaires, est ce qui se rapproche le plus de l'enfer sur Terre. Des milliers de personnes désespérées viennent ici pour demander de l'aide. Beaucoup ne trouvent que la mort. Ils affluent chaque jour depuis des villages situés à des centaines de kilomètres, affaiblis par la faim, poussés au-delà du désespoir. 15 000 enfants sont ici aujourd'hui, souffrant, désorientés, perdus. La mort est partout. Un enfant ou un adulte meurt toutes les 20 minutes. Korem, une ville insignifiante, est devenue un lieu de deuil.
À l'image, on voit des milliers de personnes à perte de vue dans une plaine désertique. Des nourrissons faméliques pleurent. Les seins desséchés des mères ne donnent plus de lait. Constamment, les médecins font face à des dilemmes et doivent choisir qui soigner. Autrement dit, qui doit vivre ou mourir. La pire des situations pour eux. Lors des distributions de vivres, pour savoir qui a reçu sa ration, des hommes armés surveillent les sacs et les humanitaires tracent un trait à la craie sur le front des affamés, accroupis en file indienne. Les images de familles qui pleurent devant des cadavres sont insoutenables. Des vêtements également sont distribués pour supporter les températures qui peuvent descendre jusqu'à 0 degré la nuit. Certains scrutent le sol pour ramasser quelques grains tombés des sacs. À l'écran, on voit une fillette de 3 ans, à bout de force. Quelques secondes plus tard, son corps nu est inerte, c'est la mort, presque en direct. Brigitte Vassé, médecin française de l'ONG Médecins Sans Frontières, répond en anglais à la question d'un journaliste dans le reportage de la BBC et lance ce message d'alerte.
Que pensez-vous de l'attitude du reste du monde à propos de cette situation ?
Je ne suis pas une femme politique. Je suis juste un témoin de ce qui se passe à Korem. Et je sais que si on ne fait rien, il y aura des centaines de milliers de morts. Ici, on a déjà des milliers de morts. Et Korem n'est qu'une petite partie de l'Éthiopie.
L'objectif du journaliste, Michael Burke, et bien de bousculer les téléspectateurs avec ces images choquantes. Et l'objectif est atteint. De nombreuses personnes vont réagir face à cette situation tragique. Parmi elles, Bob Geldof, chanteur irlandais de 33 ans du groupe Boomtown Rats. Il faut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. De la musique, bien sûr, c'est sa spécialité, dans le but de récolter de l'argent. Alors, il se lance dans la composition et l'écriture d'un chant de Noël. L'objectif étant de rassembler le plus d'artistes dans un studio pour chanter la bonne cause. Il active ses contacts et sollicite également ceux de sa copine Muriel Gray qui anime une émission pop à la télé. Bono de U2, Phil Collins, Sting, deux anciens membres de Police, restés stars en solo, sont sollicités. Les retours sont positifs et c'est l'effet boule de neige pour ce disque de Noël. De plus en plus de chanteurs répondent à l'appel de Bob Geldof. Mais il faut faire vite, car le disque doit être enregistré et mixé pour les fêtes de fin d'année. C'est une course contre la montre qui s'engage, et un défi de taille. Comment trouver une date d'enregistrement, rapidement, avec plusieurs agendas de rockstar? Le 25 novembre 84, c'est le grand jour pour le Band Aid, qu'on peut traduire par groupe de musiciens engagés, mais également par pansement. Oui, on l'aura compris, les rockstars anglaises viennent au chevet de l'Afrique. À 8h du matin, aux abords d'un studio d'enregistrement londonien, Bob Geldof attend l'arrivée de ses amis chanteurs. Et pour l'instant, les plus ponctuels sont les journalistes, qui constituent de petites meutes à l'affût de vedettes qui vont arriver. À 10h, le défilé commence. Sting, qui arrive en limousine, s'arrête dans une rue avant pour finir à pied, devant les caméras. Il faut la jouer en humble. Le groupe Bananarama arrive dans une vieille Golf. Puis c'est au tour de Spandau Ballet. À 11h30, les stars sont rassemblés dans le studio, mais il manque Boy George, du groupe Culture Club. Normal, il s'est couché à 4h du matin. Bob Geldof le réveille par téléphone, mais Boy George est à New York. Geldof lui demande alors de prendre le Concorde pour venir en vitesse à Londres. Les artistes n'ont que 24 heures pour l'enregistrement et le mixage, quand habituellement, ils disposent de plusieurs semaines pour un album. En tout cas, à midi, tout le monde est arrivé, sauf Boy George, toujours à New York. On organise un photocall aux allures de clichés de rentre des classes, et on distingue notamment Phil Collins, Dennis Thomas, The Cool and the Gang, George Michael, le groupe Spandau Ballet, Rick Parfitt et Francis Rossi de Statu Quo, et puis Bono et Adam Clayton de U2, Paul Young, Major, Sting et les membres de Duran Duran. Beaucoup d'entre eux n'ont pas ou peu dormi. Certains ont la gueule de bois, mais l'ambiance est bon enfant. Chaque chanteur est enregistré séparément et les voix sont ensuite mixées ensemble. Phil Collins joue à la batterie et sa première prise est brillante. À 18h, Boy George débarque dans le studio et il a pris le dernier Concorde de la journée, en effet. Et à 19h, toutes les voix solo sont dans la boîte, place au chant choral. Grand moment de communion. Le mixage est finalisé dans la nuit, une vraie performance. Le lendemain, la chanson passe à la radio et Bob Geldof promet à tous les auditeurs que tout l'argent sera reversé pour aider les Éthiopiens. Le titre, Do They Know It's Christmas. Extrait. Et voici quelques paroles en français. Et il ne neigera pas en Afrique ce Noël. Le plus beau cadeau qu'ils ont eu cette année est la vie. Là où rien ne grandit, pas de pluie ou de rivière qui coule. Est-ce qu'ils savent que c'est Noël partout? Nourris le monde, laisse-les savoir que c'est Noël. La chanson devient très vite numéro 1 des charts et se vend à 3 millions d'exemplaires. Les Britanniques s'empressent d'aller acheter cet album avec une pochette réalisée par Peter Blake, qui en a aussi réalisé pour les Beatles, un spécialiste. Au Royaume-Uni, c'est l'époque du thatcherisme et des grands mouvements sociaux pour cause de casse sociale liée au néolibéralisme, des grandes grèves des mineurs, mais aussi de l'argent roi. Bienvenue dans les années 80. Décennie de la musique pop triomphante, où l'on pense encore qu'il est possible de changer le monde en chantant. Bob Geldof devient une personnalité publique. Il rencontre Mère Teresa, Tony Blair et Margaret Thatcher. avec qui il négocie une exemption de TVA pour les disques de vente Eve afin d'apporter une aide supplémentaire à l'Éthiopie. Opération réussie. Au total, plus de 8 millions de livres sont collectés. De l'autre côté de l'Atlantique également, on a vu les images de famine et on a entendu parler du succès de Bob Geldof. Pour certains Afro-Américains, il y a un peu d'amertume tout de même, notamment chez Harry Belafonte, chanteur, acteur et militant pour les droits civiques, qui déclare « Il y a des blancs pour sauver les noirs, mais pas de noirs pour sauver les noirs, c'est embêtant. On doit sauver notre peuple de la famine. » Il lance donc la même opération que Bob Geldof, version américaine, avec toute la démesure qui l'accompagne. Les trois premiers noms associés à ce projet sont des poids lourds, Lionel Richie et Michael Jackson, entre autres. Ce sont deux des plus grandes stars de l'époque, surtout le second, carrément roi du monde à l'époque. Il se trouve que ces deux-là se connaissent depuis l'adolescence et vont collaborer pour l'écriture de la chanson avec l'aide de Quincy Jones, musicien et arrangeur de génie que tout le monde s'arrache. Une sorte de Dream Team. Le même problème se pose alors pour les Américains. Comment fixer une date qui arrange tout le monde? La solution est vite trouvée. Pourquoi ne pas faire l'enregistrement après la cérémonie des Music Awards qui a lieu à Los Angeles? Banco. Un studio est loué, les invitations sont envoyées et le déroulement est tenu top secret. Nom de code, USA for Africa. Le 24 janvier 1985, la chanson Tam Tam pour l'Éthiopie sort chez tous les disquaires en France. Elle rassemble plus de 40 artistes africains à l'initiative de Manu Dibango. Le refrain martèle, pourquoi la faim ? 28 janvier 1985, retour aux États-Unis. Après avoir présenté la cérémonie des American Music Awards, tout en remportant plusieurs récompenses, Lionel Richie se dirige vers le studio pour rejoindre Michael Jackson et Quincy Jones pour une chanson que vous connaissez forcément, We Are The World. Les artistes sont attendus un peu avant minuit et Quincy Jones a pris le temps de noter sur une feuille scotchée sur la porte d'entrée « Laissez votre ego dehors ». Avant de débuter la session d'enregistrement, Quincy Jones demande à Bob Geldof de s'adresser aux artistes. Extrait du documentaire The Greatest Night of Pop, diffusé sur Netflix.
Je ne sais pas si nous pouvons concevoir ce que c'est de ne rien avoir. Mais il s'agit par exemple de manquer d'eau. Dans certains camps, on voit 15 sacs de farine pour 27 500 personnes. On voit la méningite, la malaria et la typhoïde qui circulent encore. On voit des cadavres allongés côte à côte. Et c'est pour ça qu'on se bat. Et qu'on est là ce soir. Je ne veux pas vous accabler, mais c'est un moyen de montrer ce que vous ressentez et votre implication au travers de cette chanson. Merci à vous tous et espérons que ça marche.
Tout le monde est impressionné par le discours. Et l'ambiance est très spéciale. Tout le monde semble intimidé. Parce qu'en termes de stars, on en a rarement vu autant au mètre carré. Kim Carnes, Ray Charles, Bob Dylan, Michael Jackson, Billy Joel, Cyndi Lauper, Lionel Richie, Kenny Rogers, Diana Ross, Paul Simon, Bruce Springsteen, Tina Turner, Stevie Wonder. Les enregistrements débutent. Et c'est parti pour une nuit où les moments de tension vont alterner avec ceux de détente ou de rigolade. Quand, par exemple, Stevie Wonder déclare « Si on ne fait pas la prise en une seule fois, Ray Charles et moi, on vous ramène en voiture à la maison. » Rappelons que ces deux immenses chanteurs sont non-voyants. Finalement, les barrières tombent et les stars commencent à se demander des autographes entre eux. Ou entre elles. Lors de son solo, Bob Dylan lui semble perdu. Mais Stevie Wonder lui montre la voie à suivre en jouant du piano et en l'imitant. Après une longue nuit de travail intense, We Are The World est enregistré. Trois mois plus tard, le single est diffusé simultanément sur 6000 radios en même temps, dans le monde entier. Une grande première. chanson se vend à 20 millions d'exemplaires et remporte 4 Grammy Awards et 2 MTV Awards. Un succès sans appel qui inspire des artistes du monde entier, car la famine ne s'est pas arrêtée pour autant. Canadiens, Italiens, Irlandais, Yougoslaves, Espagnols, Allemands, chacun y va de sa chanson contre la famine en Afrique. En France, c'est Renaud qui débute l'écriture d'une chanson, SOS Éthiopie. Bon, les paroles sont un peu plus politiques et virulentes que celles des Anglais et des Américains. Mais le chanteur français a dû édulcorer un peu ses propos pour rassembler le plus d'artistes possible et former Chanteurs sans frontières. Et une belle bande, composée notamment d'Alain Souchon, Christophe, France Gall, Francis Cabrel, Gérard Depardieu, Hugo Frey, Jean-Jacques Goldman, Josiane Balasco, Julien Clerc, Michel Berger, Maxime Forestier, Richard Berry, pour ne citer que. Le jour de l'enregistrement, l'ambiance est un peu tendue, certes, mais Coluche est là pour réchauffer l'atmosphère. Et le titre sort sur les ondes, mi-avril 85. La chanson fait la une des JT. Renaud est l'invité de celui de Claude Sérillon.
Comment est-ce qu'on écrit ce genre de texte? C'est, on s'inspire de photos, d'images, de films?
De toutes les images dont on a été abreuvé, mais peut-être malheureusement pas assez pour bouger par les médias depuis 6 mois, depuis que la famine frappe l'Éthiopie et bientôt le Soudan.
De son côté, Bob Geldof, surnommé Saint Bob par la presse, continue ses allers-retours en Afrique de l'Est pour mener à bien son combat humanitaire contre la famine. Grâce à la vente des disques, il a acheté 3 bateaux pour acheminer directement de l'aide. Il fait également la tournée des pays pour rencontrer les chefs d'État et les convaincre de donner de l'argent. Mais il a une nouvelle idée. Il veut organiser non pas 1, mais 2 concerts en simultané, et ainsi rassembler les plus grandes stars planétaires sur scène pour ce qu'il nommera le Live Aid. Le projet est titanesque. Une partie en Angleterre, l'autre aux États-Unis. Un concert caritatif international, à l'image du premier du genre, qui a eu lieu en 1971, The Concerts for Bangladesh, organisé par l'ancien Beatles George Harrison et le musicien indien Ravi Shankar au Madison Square Garden de New York. Geldof parvient à convaincre de très nombreux chanteurs et groupes de monter sur scène, gratuitement. Les concerts auront lieu au stade Wembley à Londres et au John Kennedy Stadium à Philadelphie le 13 juillet 1985. Et la liste est longue, impressionnante. Les Who, les Beach Boys, Statu Quo, Dire Straits, U2, David Bowie, Madonna, Mick Jagger, Bob Dylan, Elton John, Freddie Mercury et Paul McCartney. Sentence, but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've hurt myself, slammed into my past, but I've done through. We are champions of failure, and we'll keep on fighting to the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, as we are the champions. Fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been a bed of roses. No pleasure cruise. I consider it a challenge. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Live Aid 85, chanter contre la famine.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
12 juillet 1985, Londres. J-1 avant le concert de la décennie. Des spectateurs sont déjà présents à bord de Wembley. Ils ont rapporté des toiles de tente pour s'assurer d'être les premiers à pénétrer dans le stade et être devant la scène. La ville s'apprête à vibrer au rythme des plus grandes stars. Bob Geldof et son équipe peaufinent les derniers détails. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 50 chanteurs et groupes, 2 stades, 16 heures de rock et une retransmission en direct dans 160 pays. Les prouesses techniques à accomplir pour l'organisation, la synchronisation et la diffusion de ces deux concerts en simultané sont monumentales. 13 juillet 85, Londres, cette fois c'est le grand jour. Les rues sont totalement embouteillées. Alors les chanteurs sont transportés en hélico depuis l'héliport de Battersea à 12 km de Wembley. Côté télé, 9 satellites sont mobilisés pour diffuser le double concert, rappelons, double concert, dans plus d'une centaine de pays. Et on évoque déjà le chiffre de plus d'un milliard de téléspectateurs. C'est clair, il n'y a aucune place pour l'improvisation, fausse note interdite. Sur Antenne 2, Patrice Blanc-Francard raconte le début du concert.
Wembley, 1h05 de l'après-midi. Nous sommes à Londres. Nous sommes à Londres et nous serons très bientôt à Philadelphie. Nous voulons qu'avec nous, vous participiez à ce fantastique concert, ce fantastique Live Aid concert qui a débuté tout à l'heure, en plein milieu de la journée, avec cette cérémonie d'ouverture que vous ne devez pas rater dans les enfants du rock. Et bien sûr, avec Lady Di, le prince Charles, Bob Geldof derrière lui et Antenne 2.
Charles et Diana vont saluer tous les artistes dans les loges de Wembley, mais ils ne peuvent pas s'attarder. La reine Elisabeth les attend à Buckingham pour le déjeuner. Tant pis pour eux. Dans les tribunes, France Gall, Michel Berger, Jean-Jacques Goldman et Daniel Balavoine observent se succéder sur scène statu quo. Bob Geldof et son groupe, les Boomtown Rats, Sting, Phil Collins, U2, Dire Straits, Queen, David Bowie, The Who, Elton John et Paul McCartney. Paradoxalement, pour un concert de solidarité avec un pays africain, il n'y a aucun artiste originaire de ce continent sur la scène. Dans le stade, près de 100 000 spectateurs communient avec les stars, sous une chaleur accablante qui provoque quelques malaises. Sur scène, Phil Collins transpire, tellement d'ailleurs qu'il fait une fausse note sur son piano. Oui, son doigt glisse avec la sueur. Il prend ensuite le Concorde pour aller se produire à Philadelphie. Son avion est dérouté pour passer juste au-dessus de Wembley, tout un symbole. 2 heures après le début du concert londonien, place à l'entrée en scène des Américains dans le Live Aid. Bob Geldof l'annonce à la foule.
Wembley, veuillez accueillir l'Amérique pour la journée du Live Aid. Bonjour l'Amérique, bienvenue dans le monde, passez une excellente journée. S'il vous plaît, donnez-nous beaucoup d'argent car nous savons que vous en avez, comme tout le monde sur la planète.
Jack Nicholson et John Baez prennent la parole pour lancer le concert à Philadelphie. Et la chanteuse déclare « Bonjour, enfants des années 80, ceci est votre Woodstock. » Et il s'est fait attendre. Les stars annoncées ont attiré la foule. D'ailleurs, Bill Graham, l'un des promoteurs de Live Aid, n'est pas dupe. Ce n'est pas la famine qui a mobilisé le public, enfin pas forcément, non. Les gens sont soucieux de la situation africaine, certes. Mais s'il n'y avait pas de famine, nous aurions vendu autant de billets. Les écrans géants permettent d'alterner les performances entre Londres et Philadelphie. Et partout dans le monde, on regarde les artistes se succéder sur scène. On évoque le chiffre extraordinaire de 1,5 milliard de téléspectateurs, voire 2 milliards. Une communion planétaire. Même en URSS, qui a envoyé un groupe de musique, on regarde le concert qui se déroule en Occident. Seule la Chine ne le retransmet pas. Bob Geldof profite alors de cette exposition extraordinaire pour piquer une colère.
Tu dois décrocher ton téléphone et sortir l'argent de ta poche. Ne va pas au pub ce soir. Reste chez toi et donne-nous l'argent. Il y a des gens qui sont en train de mourir maintenant. Alors donne-nous l'argent. Voici le numéro.
Allez hop, exécute. Et les dons se multiplient. Aux États-Unis, il y a plus de 180 000 appels à l'heure. Paul McCartney lui interprète son monument, Let It Be. Mais manque de chance, le micro ne fonctionne pas. Un crime de lèse-majesté. Mais si l'on ne devait retenir qu'une seule performance, ce serait celle de Freddie Mercury et de Queen. Bien aidé par leur ingénieur du son qui a discrètement touché la console de mixage pour augmenter le volume. Et le stade de Wembley est en folie. Après 16 heures de concert, Bob Geldof peut savourer son succès. Tout s'est passé sans grave incident, ni sur la scène, ni dans la foule, ni du côté de la retransmission télé. Les dons sont en rendez-vous. Les images de la famine diffusées nouvelle fois et l'engagement des stars mondiales de la chanson ont permis de fédérer la planète autour d'un combat consensuel, la lutte contre la faim dans le monde. Les deux concerts se terminent par deux chansons phares, « Do They Know It's Christmas » et « We Are the World ». Nous sommes le monde. C'est bien ce qui s'est passé ce 13 juillet, où près de 2 milliards de personnes qui ne parlent pas la même langue et qui vivent dans des pays culturellement très différents ont vécu un moment de communion. 127 millions de dollars sont récoltés, soit l'équivalent de 326 millions d'euros d'aujourd'hui. Un mois après le concert, Bob Geldof est l'invité du journal de 20h sur Antenne 2. Le présentateur, Bernard Rapp, lui pose une question sur sa supposée naïveté par rapport à la corruption qui sévit en Afrique et l'argent qui aurait été détourné.
Certains pensent que vous êtes au fond un naïf.
I'm not so...
Je ne dirais pas que je suis vraiment naïf. Je connais les problèmes de la corruption, je connais les problèmes de gaspillage, il suffit de lire les journaux pour s'en rendre compte, il suffit d'écouter la radio ce soir pour s'en rendre compte qu'il y a de la corruption partout dans le monde. En ce qui me concerne, et d'après ce que j'ai compris, il faut pour l'instant arrêter donc la famine dans le monde entier, et bien entendu la mort ne respecte pas des frontières géopolitiques, donc il faut respecter quelqu'un qui risque de mourir, quel que soit le pays dans lequel il se trouve. Donc s'il y a un pays dans lequel quelqu'un, les gens meurent, il faut s'y rendre pour empêcher cette famine et cette mort.
Après le concert, Bob Geldof organise l'acheminement des vivres jusqu'en Éthiopie et au Soudan avec le Band Aid. Il part à la tête d'un convoi de 150 camions. C'est à la fois de l'aide d'urgence et de l'aide au développement, car il faut construire des hôpitaux, des routes. Une incroyable énergie au service d'une cause, à tel point qu'un député norvégien et le Premier ministre irlandais souhaitent que le prix Nobel de la paix soit attribué à Bob Geldof. Mais le chanteur n'est pas exempt de toute critique. On lui reproche notamment de fermer les yeux sur les agissements du dictateur éthiopien Mengistu, qui utilise la famine pour déplacer des populations et régler des comptes avec des rebelles. Jeudi 30 octobre 86, dans le JT de 13h sur TF1, un sujet consacré justement à la famine en Éthiopie. Deux ans après la diffusion du terrible reportage sur la BBC, celui qui montrait les souffrances dans ce pays, c'est l'heure du bilan. 1 million de tonnes de vivres ont été distribuées, notamment grâce aux bandes aid. Mais la répartition de l'aide est très inégale. La région de l'Érythrée, bastion de la guérilla anti-gouvernementale, est moins bien approvisionnée. Pire encore, la distribution de la nourriture aurait été utilisée par le gouvernement pour appâter des populations afin de les déplacer ensuite. L'ONG Médecins Sans Frontières, qui a dénoncé ces pratiques, a été expulsée du pays. Son président, Ronnie Broman, explique.
On se rend parfaitement compte que l'action sur le terrain, dans certaines circonstances, et l'Éthiopie est l'une de ces circonstances, elle a ses limites. Et que si l'on veut qu'elle prenne toute sa dimension, il faut que derrière elle, un mouvement d'opinion l'appuie. Un mouvement d'opinion l'appuie pour dire, nous voulons savoir ce qui se passe avec l'aide. Vous comprenez, on ne peut pas rester penché sur sa perfusion, sur son blessé, sur son malade, alors qu'à 2 mètres ou à 2 kilomètres, des milliers et des milliers de gens sont transférés. Pendant qu'on en sauve 1000, 10 000, avec les mêmes moyens, sont plongés dans la détresse. Ça n'est pas possible.
5 jours plus tard, le mardi 4 novembre 86, Bob Geldof est l'invité d'Antenne 2 Midi. le chanteur et organisateur du Concert du siècle, sort un livre intitulé « Alors, c'est tout ». Il explique qu'il a mis sa carrière de chanteur entre parenthèses pour s'occuper de l'organisation Band Aid, qui n'a pas eu le prix Nobel, mais qu'il compte bien l'obtenir prochainement. Bernard Rapp lance alors un reportage consacré au déplacement de population en Éthiopie et demande à Bob Geldof de réagir. Le chanteur irlandais dit qu'il est au courant et que si jamais il y a des crimes commis, il faut les arrêter. On diffuse ensuite une interview d'André Glucksmann, qui vient de sortir un livre avec Thierry Volton intitulé « Silence, on tue ». Les deux écrivent notamment que le dictateur Mengistu a utilisé la famine et pris en otage son peuple. Et surtout, ils accusent Bob Geldof de complaisance envers le régime. D'où la charge d'André Glucksmann.
Je dirais d'abord bravo parce qu'il a bien réagi et il a réussi à réconcilier des tas de chanteurs, le groupe Wu, pour l'Éthiopie. Et c'est pas moins grandiose que la réconciliation de Sartre et Daron pour les Boat People. Et puis je lui dirais dommage, dommage qu'il n'ait pas tenu la longueur. Dommage qu'il se soit tu lorsqu'on s'est mis à déporter des populations, lorsque le gouvernement éthiopien a déporté des populations. Dommage qu'il se soit tu lorsqu'on lui a confisqué, le gouvernement éthiopien lui a confisqué deux bateaux de Band Aid. Le silence, nous connaissons ce que c'est en Europe. Le silence a été celui de la Croix-Rouge ou des papes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Silence pendant qu'on massacrait les Polonais, pendant qu'on exterminait les Tziganes, pendant le génocide des Juifs.
Bob Geldof rétorque : je pense que c'est un bon point de départ pour vendre son livre, mais je crois que c'est uniquement un tissu de mensonges. Il a parlé des deux bateaux qui avaient été arraisonnés par les Éthiopiens, c'est faux. Et le chanteur rappelle que Band Aid ne vient pas seulement au secours des Éthiopiens, mais aussi d'autres pays. Malgré cela, cette famine a fait des centaines de milliers de morts. On évoque même le chiffre d'un million. Des centaines de milliers de personnes ont été déplacées de force. Et selon MSF, 100 000 seraient mortes d'épuisement et de maladies lors de ces déportations. Une chose est certaine, Live Aid a donné naissance à une tendance, celle des concerts de charité. Le Farm Aid, pour aider les agriculteurs américains, en 85. Le Human Rights Now Tour, en 88, pour les droits de l'homme. Les concerts contre le sida, ceux pour la libération de Mandela. Et c'est suite à SOS Éthiopie que Coluche a eu l'idée de faire une chanson pour sa nouvelle association, les Restos du Cœur.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Le concert Live Aid 85, on en parle avec notre invité René Broman. Bonjour.
Bonjour.
Ancien président de Médecins Sans Frontières. Alors, on vient de voir ces initiatives de charity business s'inscrivent dans les années 84 et 85. Vous, ONG Médecins Sans Frontières, vous arrivez en Éthiopie quand ?
En mars 84, c'est-à-dire 8 mois avant que les bruits de la famine commencent à envahir le monde. Et si nous sommes arrivés là, c'est parce que Médecins Sans Frontières, à la fin 83, constatant que dans une bonne partie des pays de la ceinture sahélienne, disons de l'Afrique de l'Ouest, le Soudan, l'Éthiopie, et probablement l'Éthiopie, une sécheresse avec des problèmes de nutrition, voire des poches de famine existaient, nous avions proposé nos services au gouvernement éthiopien qui nous a répondu positivement, si bien qu'en février 84 a eu lieu une mission exploratoire qui a débouché sur une mission opérationnelle en mars 84. Mais elle était extrêmement réduite. On a entendu le docteur Brigitte Vasset. Brigitte dirigeait une équipe de 5 personnes en tout. Il aurait fallu être 15 ou 20, et nous pouvions être 15 ou 20, mais le régime éthiopien, pour des raisons d'ailleurs que je n'ai jamais vraiment comprises, qui ne sont pas claires, peut-être une espèce de méfiance instinctive, un compromis entre ceux qui refusaient et ceux qui acceptaient la présence d'étrangers, nous n'avons jamais pu, avant que la famine soit officiellement déclarée, monter nos effectifs à plus de 5. Si bien que, pendant l'été 84, la situation était absolument catastrophique. Tous les jours, l'équipe retrouvait des dizaines de cadavres. Le matin, parce qu'on était obligé de sortir du camp, et là, dans l'hôpital sous tente installé par Médecins Sans Frontières, on trouvait de très nombreux cadavres. Donc la situation était absolument abominable. Si bien que lorsque à l'automne, le fameux documentaire, enfin le reportage de Michael Burke a été diffusé, ça a été comme une sorte de respiration, enfin, un moment d'espoir. Mais j'ai un reproche à faire à ce documentaire, à Mark Gullberg, car je pense qu'il porte une responsabilité qui, je pense d'ailleurs, lui-même a reconnu plus tard, le journaliste important qu'est Mark Gullberg, mais il a choisi de transformer la famine éthiopienne qu'il avait littéralement bouleversé, ça ne fait absolument aucun doute, il a choisi de la transformer en un événement naturel, en une catastrophe liée à la sécheresse et aux criques.
Donc pas du tout politique.
Donc rien de politique.
Alors que, évidemment, que toutes ces famines et ces malheurs viennent de problèmes politiques, on le sait bien.
C'est ça, le recrutement forcé, le recrutement forcé qui soustrayait aux travaux agricoles la quasi-intégralité de la jeunesse du nord de l'Éthiopie, la collectivisation forcée et accélérée qui faisait que les paysans ne retrouvaient plus aucun profit de leur culture, plus, en effet, une pluviométrie qui avait souffert, mais qui n'était pas une grande sécheresse.
Ouais. Juste c'est le même phénomène qu'au Biafra.
Une baisse de régime de pluie, tout à fait. Au Biafra, la famine a été organisée
politiquement.
Comme un moyen de réduire la rébellion, absolument, et d'ailleurs utilisée également par la rébellion au Biafra. Ouais. Ça a été une cascade d'horreur. Mais enfin, donc, Mackelberg a choisi délibérément, il y a réfléchi, et il a donné une réponse, dans sa propre réflexion, une réponse que je trouve très discutable, qui était de dire, il faut mobiliser l'opinion. Pour mobiliser l'opinion, il faut un sujet simple. Il y a la mauvaise nature qui frappe l'Éthiopie par la sécheresse et les criquets. Donc ce qui restait de récolte a été mangé par les criquets. Les gens crèvent de faim, il faut se mobiliser pour leur apporter à manger. Mais en faisant cela...
C'est bizarre en tant que journaliste qu'il n'ait pas vu ça quand même.
Il a traité la question de la famine en Éthiopie sur un registre exclusivement émotionnel, celui de la mobilisation du grand public dans un but de secours.
Alors, vous faites ce que vous pouvez, les médecins humanitaires, c'est bien connu. Que pensez-vous alors de l'initiative de Bob Geldof, une chanson pour lutter contre la famine ?
Disons, au départ, je trouve qu'elle est absolument salutaire. Nous avions besoin de plus de moyens, il y avait un grand nombre d'ONG qui attendaient qu'on leur donne plus de ressources pour travailler. Geldof arrive là-dessus, il déclenche, comme vous l'avez à juste titre rappelé dans votre présentation, il déclenche d'autres initiatives, qu'il y ait plus d'argent pour faire plus de choses dans une situation aussi critique, c'était certainement pas moi qui allais le critiquer. En revanche, il y a une question de temporalité. On est le cœur, ou plus exactement le pic, le pire moment de cette famine, c'est 84.
Oui, donc en fait, vous pensez que ça aurait été bien de le faire avant.
C'est ça.
Il n'est jamais trop tard, mais c'était mieux avant.
Mais ça, c'est la faute du gouvernement éthiopien. C'est le gouvernement éthiopien qui a gardé secrète cette famine pendant longtemps. En fait, il faut savoir qu'il ouvre ses frontières à des journalistes et donc au reportage sur la famine, à l'occasion de la proclamation du Parti communiste éthiopien, qui s'appelait le Parti des Travailleurs. Auparavant, il y avait un comité d'organisation du Parti des Travailleurs qui se transforme en parti. Et c'est à ce moment-là, quand le parti est mûr pour assurer, disons, la surveillance et la mise en ordre, selon son idée de l'ordre, de l'ensemble du pays, c'est à ce moment-là que le régime choisit d'ouvrir ses frontières et de laisser des journalistes aller parler de la famine en Éthiopie. Donc il y avait déjà, comment dire, une temporalité politique qui s'était inscrite là. Mais par ailleurs, il y avait aussi la temporalité de la famine. C'est 83, la sécheresse est en 83, les résultats de la sécheresse, c'est 84, ajouter, à quoi s'ajoute la mobilisation forcée, la collectivisation accélérée, les saisies de nourriture chez les paysans, qui provoquent donc cette terrifiante famine. Et Geldof arrive à un moment où, enfin, et ses initiatives arrivent en 85, à un moment où la famine est presque résorbée, l'effort international a été payant, nous avons sauvé pas mal de gens, beaucoup plus malheureusement sont morts en dehors de toute possibilité de sauvetage. Et en 85, la nourriture commence à arriver de façon à peu près régulière. Et ce qui tue en 85, ce sont les transferts forcés de population.
Bien sûr.
Et c'est précisément ces transferts que dissimule le grand concert d'Éthiopie, non pas volontairement, il n'y avait pas d'opération cynique ou de propagande, plus par volonté de ne pas voir. Et Geldof ne voulait pas voir, parce que ce que je n'ai pas encore dit, c'est que Geldof a visité Korem, l'endroit où travaillait Brigitte Vassey, l'endroit où Médecins Sans Frontières était implanté depuis mars 84. Nous savions très bien ce qui se passait. Nous pouvions voir le Parti communiste, les milices du Parti communiste arriver au petit matin, au soleil levant, encercler le camp et embarquer des centaines, voire des milliers de gens vers des destinations inconnues, ce qui s'appelait le resettlement, la réinstallation, qui était en fait les transferts forcés de population pour nourrir des sauf-causes, des colcauses, des villages modèles dans le sud de...
Il y a communiste, quoi.
Dans le sud de l'Éthiopie. Une politique purement stalinienne.
Ah oui.
Staline était au pouvoir en Éthiopie. D'ailleurs, on peut le dire, enfin, le colonel Mengistu, mais ça n'était pas de l'enrichissement personnel. C'était un projet politique. Le projet de Mengistu était de fabriquer la première société authentiquement communiste en Afrique. C'est comme ça qu'il la décrivait. Et son modèle, c'était la politique des nationalités de Staline. Quand Geldof est venu nous voir, il était ceinturé il était entouré d'une armada de fonctionnaires du parti qui veillaient à ce qu'il rencontre des gens qui allaient lui raconter ce qu'il fallait entendre, ce que le gouvernement avait envie qu'il entende, et il a refusé, alors qu'il pouvait très bien. Il était le prince de l'opinion à l'époque. Et ce prince de l'opinion n'aurait eu aucune difficulté à forcer ce petit barrage, très respectueux de lui par ailleurs,
on ne refuse rien au bienfaiteur.
Exactement, pour discuter avec Brigitte Vassey, avec les équipes de Médecins Sans Frontières, qui étaient là, qui lui auraient raconté ce qui se passait, les enlèvements, les transferts forcés, le chantage à l'aide, le fait de refuser de distribuer des couvertures, des rations alimentaires, si on refusait de partir vers les nouveaux centres de peuplement, etc. Donc, il y avait un chantage mortel, car comme vous avez rappelé, il fait très froid là-haut. Et sans couverture, vous mourrez d'hypothermie. Pas seulement de faim, mais également d'hypothèse. Et Geldof a refusé ces informations qui lui étaient communiquées, comme il les a refusées plus tard à Addis Abeba, quand notre coordinateur à Addis Abeba a cherché à le contacter à l'occasion d'une réception de l'ambassade de Grande-Bretagne, je crois. Mais en tout cas, notre coordinateur s'est rendu à cette réception pour tirer Geldof par la manche et lui profiter de votre notoriété pour demander une suspension pour voir comment on peut améliorer les choses. C'était ça l'enjeu, et Geldof s'y est dérobé.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Rani Broman, Médecins Sans Frontières, a fini par se faire expulser d'Éthiopie. Pourquoi et comment ?
Bien, parce que nous avions protesté contre les transferts forcés de population.
D'accord.
Et que nous avions, et j'avais fait moi-même cette tentative quand j'étais président de Médecins Sans Frontières à l'époque, et je m'étais rendu à Addis Abeba pour tenter de créer un front de protestation de la part des ONG, car toutes avaient vécu des situations absolument abominables, où on voyait des rafles se dérouler sous nos yeux, des gens affamés, des familles séparées, des gens malades ou blessés qui étaient emportés vers des destinations inconnues. C'était vraiment à la fois poignant et catastrophique. Et donc, il s'agissait d'essayer de créer un front. Et mon ambition, c'était de faire une espèce de conférence commune des principales ONG œuvrant en Éthiopie pour appeler le gouvernement éthiopien, encore une fois, non pas à annuler sa politique, mais à suspendre les mesures les plus critiques de cette politique pour voir comment on pouvait améliorer les choses.
Vous avez été suivi ? Vous avez été suivi ?
Je n'ai été suivi par absolument personne. Médecins Sans Frontières s'est retrouvé seul dans sa protestation. J'avais sollicité une demande avec le ministère des Secours. J'ai obtenu ce rendez-vous, mais ce rendez-vous s'est transformé en conférence de presse, mais en conférence de presse au cours de laquelle j'étais à côté du ministère adjoint, du directeur adjoint du département des secours d'Éthiopie, et où j'étais invité à exposer mes protestations, mes critiques, ou enfin ce que je pensais de la situation. Et en fait, j'avais été mis dans cette situation parce que d'autres ONG qui avaient émis quelques petites protestations à l'époque avaient été mises en demeure de s'expliquer publiquement, et c'était à chaque fois rétracté.
Ah, c'est pour cette raison, en fait.
Voilà.
Donc, sur le fond, elles étaient d'accord avec vous, ces autres
oui,
ONG.
Oui, oui, oui. Simplement, le principe de neutralité qu'elles invoquaient leur interdisait de se porter du côté des victimes. Donc la neutralité consistait à laisser parler les puissants, à laisser parler les violents et à se séparer du sort des victimes de ces violences.
Ce qui ne fait que figer la situation finalement.
Donc moi, lors de cette réunion, enfin de cette conférence à laquelle j'étais invité à participer, j'ai exposé tous les griefs de Médecins Sans Frontières à l'encontre du traitement de cette famine, ce qu'a contesté le député, le directeur adjoint des secours à mes côtés, mais à la suite de quoi Médecins Sans Frontières donc a été expulsé. Enfin, disons 15 jours plus tard, Médecins Sans Frontières était expulsé sans ménagement. On me traitait de petit Tarzan. Il y avait tout le vocabulaire fleuri de la rhétorique stalinienne qui était mobilisé pour flétrir l'attitude inacceptable des Médecins Sans Frontières. Et voilà. Mais nous avons continué. Une fois expulsé, on a organisé un colloque sur la famine en Éthiopie. J'ai été reçu au Parlement européen, au Sénat américain, à la Commission européenne en Belgique, pour expliquer ce qui se passait, car l'Éthiopie était au centre de l'attention médiatique mondiale.
Oui, et ça m'a fait penser, pardon, vous coupez, mais ça m'a fait penser au fait qu'une organisation humanitaire a forcément une approche politique. Enfin, la neutralité, c'est une légende vivante. C'est pas possible.
Oui,
enfin, c'est une légende urbaine. Pardon.
Enfin, là, en l'occurrence, la neutralité était considérée comme équivalente au silence. Mais quand
Le danger, c'est ça.
Quand vous vous taisez, vous laissez les autres parler pour vous.
Vous figez des
situations. Donc, vous n'êtes pas neutre. Le silence n'est pas neutre. Le silence est partisan.
Ouais.
Et c'est cette confusion entre les deux qui, depuis, m'a toujours obsédé. D'ailleurs, à Gaza, MSF a été accusé par les Israéliens de manquer de neutralité. Également, comme s'il fallait laisser parler les Israéliens pour décrire ce qui se passe à Gaza, puisqu'il n'y a pas de journaliste, étranger en tout cas, pour le faire. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. On a effectivement été expulsés, à la suite de quoi Médecins Sans Frontières a mené, avec les moyens qui étaient ceux de l'époque, des années 80, MSF était beaucoup plus petit, beaucoup plus limité dans ses possibilités qu'aujourd'hui. Mais malgré tout, j'ai pu aller témoigner dans divers endroits. Et donc, ça aboutit à des pressions de la part des donateurs de l'aide internationale sur le gouvernement éthiopien qui a été obligé d'interrompre ces transferts forcés de population.
Ce sera le mot de la fin, c'est en fait les associations humanitaires prises entre le marteau et l'enclume, hein, tout le temps.
Ben oui.
Merci René Oberman.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Bob Geldof et le band Aid, We Are The World. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ludovic Asselot.